We are so back!
Kaboom!
Et oui, mesdames et messieurs, le Tailgate est de retour sur les zones de Spotify.
Après une année d'absence, nous reprenons le boulot cette année. Donc, au plaisir tout le monde de vous retrouver sur notre chaîne, sur le Tailgate. Faire peut-être une petite introduction comme on s'est pas vu depuis longtemps. Cette année, donc, on revient en onde pour la saison au complet. Une petite formule un petit peu différente que la dernière fois. Donc, cette fois-ci, ça va être moi-même et Nicolas Paco qui allons runner le podcast la majorité de la saison. Donc, on va être les deux ensemble. Puis, à chaque semaine, on aura des invités différents, parfois récurrents. Mais qui vont venir avec nous partager ce qu'ils ont vu dans la dernière semaine de football et parfois d'autres sujets et jeux, un peu comme dans le passé. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités avec nous pour cette première édition de la saison 2024. Premièrement, un ancien collaborateur, une légende au monde du Bet 365 et malheureusement un fan des Chiefs, Rémi. Alex Simard!
He's so back!
Comment ça, M. Simard, de faire partie du premier épisode de la saison 2024?
Absolument honoré en tant que membre du Temple de la renommée du podcast de Tailgate, ayant fait partie de la première édition il y a quelques années maintenant, quelques lustres, et aujourd'hui j'ai plusieurs nouvelles idées à vous partager. Mes opinions football ont un peu changé depuis qu'on s'est parlé la dernière fois.
T'en reviens après un chip des Chiefs en plus, on n'espère pas trop t'en entendre parler, mais c'est ça qui est ça quand même. Hein?
Si vous voulez, on peut faire un pacte, je peux pas trop parler là, des Chiefs pour cet épisode-ci.
T'as quand même ta calotte sur la tête, mon esti. En tout cas, et notre deuxième invité aujourd'hui, un fan des Giants, tout comme moi, vous l'avez déjà entendu également sur le podcast, je nomme Monsieur Étienne Croteau, bienvenue.
Merci. Ouais, bien content d'être là. J'espère que ça va être plus agréable que ce que j'ai vu dimanche sur le terrain du MetLife.
Donc, on aura la chance d'en parler plus tard quand on va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la NFL dans la dernière semaine. Mais effectivement, là, pour nous, fans des Giants, ça n'a pas été une semaine facile. Nico, tu voulais-tu qu'on commence avec plus un segment que je qualifierais de local, peut-être?
Ben oui, on va profiter de la présence de ton invité, M. Croteau, pour son expertise dans le monde du collégial. Alors. On t'écoute.
En fait, ce qu'on voulait faire, c'est surtout parce qu'on sait que, comme vous savez, le monde de la NCAA a commencé une semaine avant la saison de football. Personnellement, en tant que fan qui suit le sport depuis quelques années, même très peu de temps, des fois, c'est un peu difficile le samedi d'arriver devant sa TV, voir 30 games de NCAA, puis dire « Oh mon Dieu, je connais pas ça, c'est qui que j'aurais écouté? » Fait que notre ami Crutz étant un bon follower de ce sport, va nous donner des petits pointers cette année si vous avez le goût de commencer à vous intégrer au niveau NCAA, peut-être les joueurs à surveiller slash équipe. Petite prédiction de ce qui va arriver en série. Puis je te laisse aller, mon cher.
Yes, ben tout d'abord, c'est sûr que là, cette année en NCAA, on a un nouveau format avec les séries à 12. Donc je pense que ça rajoute quand même de l'excitation. Là, si vous êtes nouveau au sport, la formule qu'on avait précédemment, c'était 4 équipes en série. Puis ce qu'on a vu l'an dernier, c'est que ça a désavantagé Florida State, qui était le gagnant du ACC. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait les 5 gagnants des conférences. 4 étaient invaincus. Puis, Alabama avait perdu en tout début de saison. Puis, finalement, c'est Alabama qui a passé par le comité pour être la 4e équipe. Puis là, finalement, Florida State, depuis ce temps-là, on voit ce que ça donne. C'est pas très bon. Mais je crois que c'est une saison qui va être assez intéressante. Puis, on a déjà quelques joueurs qui se démarquent du lot. Fait que si je commence avec les carrières, il y a quelques carrières qui m'excitent particulièrement cette année. J'ai peut-être un amour de Ole Miss depuis Eli Manning, mais pour moi, le carrière actuellement le plus impressionnant du college football, puis vous me direz qu'il a joué contre deux équipes assez faibles.
Sous la moyenne un peu.
Dont une équipe de division 2, mais c'est Jackson Dart, le QB des Rebels de Ole Miss. Donc, je vous dirais que son comparatif, j'essaie de penser à ça tantôt, je le vois comme un genre de... je dirais peut-être un genre de Dak, mais qui se débarrasse peut-être du ballon un petit peu moins rapidement que Prescott. Mais je pense que c'est un peu le même prototype de carrière, quand même avec un bon bras assez précis. Puis actuellement, je dirais qu'à Ole Miss, c'est pas mal un one-man show parce que ses receveurs, ouais, c'est pas très bon.
Presque deux. Une fois 400 verges pour la passe, une fois 350 verges.
377 même, je pense. Okay. Ouais. C'est
impressionnant. Ouais. Si quelqu'un cherche un club, peut-être, en plus, leurs trades sont vraiment frais, les Rebels.
Ouais, fait que je dirais que Jackson Dart, c'est quand même à regarder. Sinon, un gars qu'on n'attendait pas actuellement, c'est Cam Ward, à ne pas se méprendre avec l'ancien gardien, avec l'ancien gardien de Hurricanes. Cam Ward, le QB de Hurricanes de Miami. Actuellement, il est en train de surprendre un peu tout le monde. Tantôt, je regardais les mock drafts, puis CBS, dans sa dernière mock draft, le mettait deuxième actuellement aux Panthers de la Caroline. Donc, il va falloir encore regarder ce gars-là parce que c'est un gars dans sa dernière saison qui n'a pas tant fait d'éclat avec Miami, qui s'est même pas classé dans le top 25. Si on continue, j'aurais peut-être le dernier QB à vous parler, Carson Beck. Rien d'impressionnant, mais c'est un gars gros gabarit qui est, selon moi, parmi toutes les QB actuellement, le plus NFL ready.
Fait projected que, first pick overall en ce moment, si je me trompe pas.
Ouais, exactement.
Quand même facilement. Ouais. Ben, ouais.
Avec les Dogs, les Bulldogs de Georgia.
C'est ça, ça m'amène à peut-être parler un peu des powerhouses que tu as vu jouer à date cette saison. Georgia, on les a vus qui sont encore une machine de football.
Ouais.
Même chose pour Texas, là, qui ont roulé sur Michigan la semaine passée. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. C'est pas mal dans les top 2 à date dans la Nation, je dirais. Je sais pas si tu as d'autres surprises, ouais, d'autres équipes.
J'ai impressionné. Tennessee aussi, que j'aime beaucoup, avec James Pierce, le Edge, qui devrait sortir probablement top 5. Style un peu, il compare un Miles Garrett un peu, fait que je pense que ce gars-là pourrait être bon. Puis sinon, ben, il y a évidemment Colorado aussi, qui est tout le temps le fun à suivre, qu'on les aime ou qu'on les aime pas.
Avec le drama qui les entoure.
Prime Time nous donne tout le temps des shows. Fait que lui, son fils, puis un autre baller que je voulais parler aussi, Travis Hunter, là, qui est capable de jouer receveur et corner. Ça va être de savoir quand il va se rendre au prochain niveau, s'il va être capable de jouer autant corner que receveur, parce que 80 snaps au college, ça va, mais rendu dans l'NFL, c'est une autre game.
C'est là. Ça. Puis par contre, s'il réussit le contrat qui va se magasiner là, ça va être n'importe quoi, mais ouais, en tout cas, physiquement, ça, déjà que les carrières de joueurs de NFL sont pas très longues, ça va être à décider plus tard.
Mais en même temps, actuellement, il se fait quand même coacher par un gars qui a un peu fait ça, deux carrières avec Dion qui joue aussi au baseball. Là, fait que,
exactement.
Je pense qu'il y a le bon coach, mais Colorado est quelque chose. Puis le dernier joueur que je veux vous parler, c'est un autre carrière. C'est, allez voir ça en ligne, là, Dylan Raiola, QB de Nebraska. Ce gars-là se prend pour Patrick Mahomes.
Copie conforme.
Vous irez voir numéro 15. Il y a du monde qui disent qu'il a choisi de jouer à Nebraska parce que c'était probablement le rouge qui ressemblait le plus au rouge des Chiefs. Il fait la même pre-game routine. C'est quand même vraiment fucké. Il a la même barbichette, les mêmes shades aux clés. Fait que je vous dirais que ce gars-là, c'est quand même un show. Puis actuellement, Nebraska est 2-0. Puis ils viennent justement de battre les Buffaloes de Colorado.
Ouais, ils ont
roulé.
Ils ont shut out.
Ouais, Shador est parti. Il restait 2 minutes à la game. Il est parti de la game. Même un petit manque de leadership de sa part.
Mm.
Donc, ouais, je dirais que c'est pas mal ça, les gars à choisir. Puis en finissant, j'aimerais ça peut-être donner mes 4 équipes que je vois peut-être au college playoff officiel. Je vois Georgia, je vois Texas, je vois Ohio State, puis peut-être une surprise qui en est pas tant une, là, mais je vois Oregon.
C'est ça que j'allais dire pour mon quatrième.
Ouais. Cool. Donc voilà pour l'NCAA, on devrait avoir une belle année encore.
C'est cool, merci beaucoup. Fait que pour tous ceux qui souhaitent s'initier au sport ou whatever, ben, vous avez un petit guide d'entrée ressuscité de Monsieur Crutz. Merci beaucoup, Nick.
Ouais, alors là, on avait dit qu'on allait aussi rester un peu plus local. Simon, je pense que tu étais là toi aussi à la game des Rouges et Or samedi soir. Fais-tu quelques mots là-dessus?
Ben oui, écoute, j'étais présent à la première partie du Rouges et Or de cette année contre les Carabins. On sait toujours que c'est des affrontements qui finissent avec une possession d'écart et souvent même moins de 3 points d'écart. Ça finit toujours par un botté de dernière minute, en tout cas dans les dernières années. C'est ce qu'on a vu dans les séries en saison à la Coupe Grey. Là, ça fait ça depuis 2022 que Laval n'avait pas gagné contre les Carabins. Depuis 2022. Et au Stade TELUS, on a eu la plus grosse foule, je pense, de l'histoire du Stade TELUS. Ça a été annoncé pendant la partie. Et on a réussi à battre les Carabins à Québec SQ. Sur le botté, écoutez bien, le record du RSEQ, 53 ou 54 verges?
54.
Les gars, il y a des botteurs de la NFL qui sont incapables de faire ça. Tout le monde était sous le choc dans le stade. Les gens se sont levés d'un coup. C'était ahurissant. L'ambiance était dans l'air. Quelle victoire des Rouge et Or de Laval.
Donc là, est-ce que, si je comprends bien, j'ai moins suivi un peu la saison de Rouge et Or à date, mais est-ce que les Rouge et Or sont invaincus grâce à cette victoire encore cette année? Oui. Ben, c'était-tu leur première?
C'était leur première, je pense.
C'est ça.
Première, non, première à la maison, deuxième.
C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est okay. Que je voulais dire, en fait, c'est ça. C'était leur home opener. En plus, c'était un Saturday Night Light. C'était incroyable.
Le White Out.
Game à 7h du soir, White Out à la Penn State. C'était incroyable. Quand les joueurs du Rouge et Or sont entrés, il y avait des feux d'artifice. Glenn Constantin marchait fièrement sur le terrain. C'était une ambiance de feu.
T'es en train de me vendre le Rouge et Or, man. J'ai le goût d'y aller. Il devrait t'engager pour faire ça.
Dernière chose que je dois dire sur cette partie-là, le corps du Rouge et Or, Arnaud Desjardins, a vraiment overplay le corps des Carabins. Rappelez-moi déjà son prénom.
Jonathan Sénécal.
C'est ça. Sénécal, je pense qu'il est considéré en ce moment comme peut-être le meilleur QB U-Sports, même, je pense, Canada.
Ouais, je pense.
Il me semble que le passer rating, les passes de toucher et les verges par la passe, tous en faveur de Arnaud Desjardins, donc qui a sorti une immense partie contre Sénécal, qui est un joueur avec beaucoup de potentiel pour la
paix. On doutait un peu de lui, je pense, en début de saison, mais là, prove them wrong. Mm-hmm.
J'ai même entendu dire que Sénécal serait peut-être meilleur que Daniel Jones. Je sais pas si... Oh. Qu'est-ce que les fans des Giants en pensent?
On va y venir tantôt. Là, commence pas trop tôt. Pas ça trop tôt. Il nous reste encore plein d'affaires à jaser avant d'arriver là. En fait, pas de temps, parce que je pense qu'on a fait le tour de ce qui est local, puis on va faire un petit recap de la week 1 de la NFL, donc j'espère que tout le monde, vous êtes content, de nos auditeurs, que le football soit de retour. Personnellement, tout le monde autour de la table ici est très enthousiaste, surtout avec le retour des League Fantasy aussi. Donc, on a commencé ça, en plus, avec un match jeudi passé qui était... qui comprenait des deux équipes dont deux de mes collègues ici présents sont fans. Je sais pas si vous avez un petit commentaire sur la game Ravens-Chiefs, messieurs.
Je pense que l'équipe à Rémi, ils vont pour le three-peat. Puis,
Très surpris d'entendre ça venant d'un fan des Ravens ce soir. C'est honnêtement, je ne m'y attendais pas.
C'était une joke. Mais okay. Sérieusement, les Chiefs ont mieux joué, les Ravens ont mal joué. Puis, parlant des Ravens, dans le fond, nouveau coordonnateur à la défense. Trois nouveaux joueurs, ça aligne à l'attaque. Ça a paru.
Ça va prendre du temps un peu.
Puis, je suis quand même confiant qu'on va se replacer. Là. C'était pas, c'est quand même un orteil dans l'OT. Fait que, j'étais déçu, mais je pense qu'on va être correct.
C'est vrai. Au début de la game, c'était allé plus en direction des Chiefs un peu. J'avais un peu peur, mais quand Likely a step up en fin de game, d'ailleurs, Likely qui, dans vos ligues, si vous ne l'avez pas snack déjà, s'il dort encore ses waivers, là, passez dessus parce que Mark Andrews n'a pas démontré grand-chose cette semaine, malheureusement.
Par contre, je pense que ça pourrait être comme chacun leur game.
Absolument.
Ouais. Je serais pas
ça rend la chose dangereuse.
Mais c'est un peu tannant, ce qui...
C'est ça, ben, fantasy wise, ça rend la chose quand même assez déplaisant à gérer. Tu sais jamais comment guesser. Fait que, tu sais, il y en a-tu un qui va être utilisable une game sur deux, là, ça rend. Il faut que tu fasses un choix ou soit. C'est toujours du guessing. Ça rend des fois, là, le truc inutile.
Je pense que pour la semaine 2, je pense que c'est un cas de play them both. Je pense que je suis pas prêt encore à citer Mark Andrews en fantasy.
Non, effectivement. Pareillement.
J'aimerais faire juste un petit compliment sur Lamar Jackson pour consoler Nick dans la défaite. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux là, qui ont chialé sur les passes de fin de partie à Lamar qui étaient imprécises puis tout ça. C'est vrai qu'il en a manqué une ou deux, mais honnêtement, si ça l'a fini 27-20, c'est clairement parce que Lamar Jackson a complètement carry l'offensive toute la partie. À chaque troisième essai, c'était lui qui passait le ballon pour le first down, plusieurs longues passes à ses receveurs. Honnêtement, si c'était pas de Lamar, je me demande si les Ravens auraient fait 10 points dans cette game-là.
Effectivement. Quelque chose à rajouter, je sais pas. Fait que après ça, si on poursuit avec le prochain match, donc c'est un match spécial un peu cette semaine. C'est un match Eagles-Packers à Sao Paulo.
C'est aussi le match qu'un autre de nos collaborateurs aujourd'hui est fan.
Guess who's back? Back again!
Mais non!
He is back!
Mais non!
T'as le Cheez-Its! Salut les gars, comment ça va?
Hey. Bienvenue sur le podcast, mon Herb.
Hey, j'avais honte, je vous avais manqué l'année passée. J'ai repris la course un peu, cette année j'ai arrêté. Un peu moins de cigarettes aussi, mais ça paraît pas tant, ça, par contre, en voix.
Herb, on est là pour parler de football.
Ah, oh, Chris, c'est vrai, mais pauvre Packers, hey, ça a pas bien parti, hein? En plus, Croto, il est là. Pauvre lui, Chris. C'est quoi, c'est un esti de dog? Qu'est-ce que c'est, ça, cette histoire-là? Tu as pilé dessus. En plus, on perd notre QB, ça a pas de bon sens. Mais bon, au moins, on a Jaden Reed. Pis si vous le voulez, dans votre pool, pognez-le, parce que je pense encore que c'est le playmaker cette année.
Mais là, Herb, qu'est-ce que tu penses de ton nouveau defensive back, Xavier McKinney, avec le gros pic, là?
Très bonne acquisition, en plus, encore de vous autres. Fait que c'est vraiment une game de marde pour les fans des Giants, regardez. En plus, on a perdu... Là, la perte de Jordan Love, ça nous fait mal un peu, là, je vous dis. Grosse implication au niveau des fantasy. Faites attention aux receveurs des Packers. Mais feastez sur Josh Jacobs. Qui est-ce que je l'aime, lui?
Josh Jacobs va go nuclear pendant que Jordan Love est blessé en ce moment. Il va tout faire dans l'attaque.
Ouais, je suis bien d'accord. En tout cas, les gars, moi, il faut que je retourne là. Je t'occupe un peu. Salut.
Merci, Herb.
Bye, Herb. C'était fun de voir.
Bon, fait que on voit que les fans des Packers sont un petit peu déçus par la tournure du match la semaine dernière, notamment par la perte de leur carrière en fin de match. On pense que ça sera un petit peu moins grave qu'espéré. Là, on pouvait s'attendre peut-être à une blessure de la durée de la saison entière. On avait peur. Lorsque c'est arrivé, finalement, ça devrait être entre 3 et 5 semaines pour Jordan Love, et peut-être plus tôt de ce que j'ai entendu. Donc, quand même une bonne nouvelle, on s'en sort. Est-ce que ça sera Malik Willis qui sera la semaine prochaine corps arrière? Ça fait 11 jours, 12 jours aujourd'hui qu'il est sur le roster, je tiens à dire. Et puis, donc, plusieurs pensent que ça va être le third string QB des Packers qui sera starter la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine, on fera un petit tour en fin d'épisode, mais ils affrontent les Colts. Donc, une bonne défense aussi à ce niveau-là. Peut-être un petit dernier mot de la fin sur Eagles Packers.
Finalement, est-ce qu'on sait si le match à Sao Paulo ça a été un succès? Est-ce que genre les fans aimaient ça? Est-ce que c'était sold out? Est-ce que vous avez de l'info sur ça, vous autres?
En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est que le terrain avait l'air dégueulasse.
Le terrain avait l'air dégueulasse, mais... les joueurs n'avaient pas peur tout le goût d'aller jouer là-bas.
Non.
Mais bon.
Ça va pas empêcher.
L'NFL essaie des choses. Ouais. Après l'Europe, on essaie l'Amérique du Sud. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être qu'on. Mais Je suis pas sûr que ça t'a pogné. Peut-être là-bas, mais je sais que les joueurs ont vraiment pas aimé leur expérience, fait que ça en dit long, mais quoi qu'ils ont pas vraiment leur mot à dire non plus.
Il y avait eu une game au Mexique, là, une couple d'années aussi.
Ouais.
Il me semble que c'était genre une Niners qui était allée jouer là.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Même affaire, ils sont pas retournés depuis.
Exact. Fait que. Spécial, mais bon, un bon match des Eagles qui commence en force. Je pensais que ça allait être. Ça a été assez serré, mais je pensais que les Packers. Aurait peut-être aller la chercher, celle-là. Ouais. Après ça, un match qu'on parlera pas longtemps, je pense, parce qu'on va parler des Panthers contre les Saints. Les Saints qui l'emportent 47-10 contre les pauvres Panthers, que cette année, ça va être vraiment long comme saison, je pense.
Moi, je pense qu'après l'année, les Panthers vont déjà tirer à la plug. Je vois rien en Bryce Young qui me donne le wake-up call de me dire que ce gars-là, c'est un future QB1 dans cette ligue-là. Honnêtement, il est pas gros. Il court pas. Qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'il est précis, mais...
T'sais... Il finit 13 en 30, là, cette semaine.
Non, c'est ça, j'allais dire. À un moment donné, tu fais pas de miracle avec ça.
Je pense pas que la défense des Saints, c'est non plus une défense... Oui, c'est une bonne défense, là, mais ils vont en affronter des défenses meilleures que ça de cette saison. Tabarouette, sont aimés pour le long run.
Non.
Je pense qu'ils ont donné en plus de weapons à Bryce Young cette année. Puis à date, ça s'améliore. Ben, c'est sûr, je dis à date, ça fait une partie. Là.
Ouais, faut pas, ouais.
On lui a donné un petit peu d'aide, je pense, en draftant Xavier Leggett. Est-ce que c'est avec eux autres?
Xavier Leggett,
c'est Xavier Leggett.
On a fait la question de Diontae Johnson aussi, qui est un receveur qui a mis beaucoup de volume à Steelers, mais Colin de Bin, que ça n'a pas l'air good cette game-là.
Non.
Niveau fantasy, Camara, parti en force. Pour ceux qui avaient des doutes encore une fois cette année au draft, il n'est pas négligé dans vos ligues fantasy cette année. Niveau des receveurs, peut-être une petite déception au niveau de Chris Olave, qui n'a pas une grosse performance cette saison. Certains diront qu'il l'avait prédit là, autour de la table. Mais je m'attends quand même à ce qu'il ait des bonnes performances cette année. C'est juste que là.
Ouais, je pense même que je serais même prêt à dire que Rashid Shaheed
est meilleur.
Va être receveur 1 d'ici la fin de l'année.
Ok, tabarouette. Fait qu'en ce moment, mettons que t'es un fantasy manager, tu sell high en Chris Olave, hein, pendant qu'il y a encore un peu de...
Moi, je pense pas que grand monde le voit haut.
Mais il y a encore le nom. Ici. Ouais. Quelqu'un qui achèterait le nom, là, mais...
Je trouve que la carrière de receveur à ce gars-là, puis à Drake London, elle se ressemble pas mal. Après 2-3 ans, les deux sont très... underwhelming, puis on s'attend vraiment à ce qu'ils step up, là, puis qu'ils soient vraiment l'alpha dans leur club, mais pour l'instant, on a de la misère à le voir encore.
Effectivement. Puis niveau Panthers, il n'y a rien à mentionner, absolument rien. Aucun gars starter.
Derek Brown, le D-tackle.
Ouais. Vas-y, je vais... On a une information de insider.
Probablement le meilleur joueur de leur équipe, Season Ding and Jury, avec Torn ACL, je pense. Fait que...
C'est le seul bon gars qui restait D-line, quasiment en défense, littéralement.
Tu viens de perdre Brian Burns, là, tu perds Derek Brown. Il reste JC Horn dans cette défense-là. Je pense que je suis honnêtement même pas capable de nommer un autre gars.
Moi non plus. À part Shaq Thompson, il joue encore là, mais je sais pas. Mais c'est ça. Fait que, ouais, assez décevant. Comme les Panthers, on va monitor ça toute la saison, mais ça risque d'être très difficile. Parlant de déception et de Brian Burns, parlons des Giants qui se sont fait lessiver dimanche à 1h au MetLife Stadium. Très painful to watch en tant que fan des Giants. C'était n'importe quoi. Daniel Jones is not our guy. Notre D-line n'a pas mis de pression. C'est n'importe quoi, honnêtement. C'est un shit show. Notre équipe, c'est n'importe quoi.
Ouais, notre secondary aussi s'est fait cook bien raide.
Ça descend pendant une bonne partie de la game en plus.
Deontay Banks s'est fait mettre dans sa petite poche droite par Justin Jefferson. Non, honnêtement, il n'y avait rien de beau là. Point positif, je trouve que les rookies ont quand même été pas super. Par contre, là, Darius Massau avec l'interception, Drew Phillips avec le force fumble. Mais
puis Malik Nabers qui somme tout, parce qu'on parlait en fantasy un peu, ça a été le highest, ben en fait le highest scorer chez les Giants, puis il a quand même bien fait, là, bien fait, correct, là, une performance de presque 10 points en fantasy en PPR standard, fait que tu sais, c'est dans une défaite comme ça, de voir qu'il est quand même capable de presque atteindre son proche, et encourageant pour la suite, je pense. Que,
exactement, mais Daniel Jones, sa deuxième interception montre pas mal l'étendue de sa carrière, là, qu'il a jamais été capable de lire une défense.
C'est ça.
Puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Autant que je pense que nous deux, on y croyait pas mal. Puis,
ça fait
on,
ça est,
on
année,
était les derniers à y croire. Mais là, je pense que dimanche, on a officiellement lancé la serviette avec Beru.
On a tiré la plug.
Beru, Nick et moi avons tiré la plug officiellement.
Sur Daniel Jones. Daniel Jones, you're not welcome anymore.
Fini.
Give us Jackson Dart.
Puis, les Vikings, ben, Sam Darnold nous a cook.
Sam Darnold look real good, honnêtement. Yeah, moi, ouais. J'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu de Sam Darnold. Rien d'impressionnant, mais tout était bien fait. Mm-hmm. Puis, il y a bien... c'est comme on disait dimanche, parce qu'on a pris la game ensemble avec Chris. Tu mets n'importe quel QB dans l'attaque à Kevin O'Connell, on dirait que... Tu sais, l'année passée, on l'a vu avec Joshua Dobbs.
Ça
on
fonctionne.
A vu, on l'a vu dans le passé aussi, voyons comment il s'appelle. Bref, on a vu plein de gars qui sont arrivés dans ce truc-là, plug and play. Là,
C'est pour ça que je me disais, quand ils ont repêché J.J. McCarthy, autant que je me disais, si Giants repêchent ce gars-là, je vois pas en quoi il serait prêt day one, mais je savais que s'il tombait au Minnesota dans l'attaque à Kevin O'Connell, je le savais. Puis effectivement, la seule game qu'on a vue de lui, parce qu'il avait fini pas loin de 300 verges en 3 quarts, là, fait que il looked good. Mais,
Un petit mot sur Aaron Jones. Pour ma part, absolument surpris de sa première performance avec les Vikings. Première fois en 6-7 ans qu'il ne joue plus pour Green Bay. S'en va chez un rival de division. On se demandait tous si Aaron Jones était fini. Il y a eu plusieurs blessures. Il s'en est quand même vieux aussi. Quel âge, les gars? 30 ans, Aaron Jones? Il arrive avec les Vikings.
Il est sur le back-end, hein? Il est sur le back-end de sa carrière.
15 courses, 94 verges, moyenne de 6.7 avec 2 touchés. Ça m'a complètement surpris. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il lead ce backfield-là de cette manière-là. Puis en plus, son deuxième, Chandler, a eu quand même 8...
On pensait qu'il était en Chandler avait beaucoup de volume, mais c'est les gros jeux qui ont été la différence pour Aaron Jones.
Et pour revenir sur Aaron Jones, là, Kevin O'Call, c'est pas un cave non plus. Chaque fois que Dexter Lawrence sortait du terrain... Ok, on court. Et loin, c'est pas like Judge Chatman
un
undrafted rookie qui va arrêter Aaron Jones. Ben là, non, ça a été un meilleur coaching que j'ai trouvé du Minnesota aussi. Puis pour une deuxième année de suite au Game Opener, on n'a pas l'air prêt pas en tout. L'an passé contre Dallas 40-0.
Puis le
28-6. Ouais.
En parlant de pas être prêt, on a aussi les Bengals qui ont fait perdre à peu près 80% des Survivors du Québec.
Ouais, je pense que oui. Hein.
Dont le mien.
Le upset de la semaine, ça, un peu.
On
n'en parlera pas trop longtemps, mais Ramondre Stevenson, grosse performance. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Je pense que c'est très encourageant pour ceux qui l'ont en fantasy. Là, des fois, il a slip, puis ça a été un pick de bench là, dans vos ligues ou mid-flex. Là. Fait que ça, c'est un méchant bon pick. À part de ça, je m'attendais à peut-être un peu plus de performance du côté de l'attaque aérienne des Pats, là. Peut-être qu'il y avait des Jalen Polk, j'avais hâte de le voir. Finalement, ça a plus été le Austin Hooper tight end, mais t'sais, le IS receiver a 31 verges, fait qu'on s'entend qu'ils ont pound the rock toute la game. Côté des Bengals, c'est ilala. Ilala. Jamar Chase qui a suit up finalement.
Complètement out of shape.
T. Higgins qui était pas là. Aucun synchronisme. C'était out of sync leur attaque.
La perte de Mixon, je pense, ça se fait peut-être un peu ressentir aussi.
Ouais, moi je pense qu'ils pensaient que justement le trend des running backs de ces jours-ci dans la NFL qui était tellement facilement remplaçable. Là, je pense que les Bengals ont vu tabarouette. On a beaucoup d'ajustements à faire de leur côté. Là. 16-10 à la maison dans un All Orange Stadium qui était malade, ça fait vraiment mal.
Alors, on peut enchaîner aussi avec la game qui était quand même bizarre, la game des Steelers contre les Falcons, parce que les Steelers n'ont pas marqué un toucher, mais ont quand même gagné.
Une des deux games cette semaine où une équipe a gagné sans faire de toucher, si je ne me trompe pas, avec les Bears. Justin Fields, qui est partant avant Russell Wilson. Il était inactif, mais est-ce qu'il est blessé? C'est son calf?
Il
était inactif, il avait ses pads sur le bord du terrain.
Ouais.
En tout cas, Rustings. Rustings. Puis, pas surpris de la. L'attaque des Falcons m'a beaucoup déçu.
Moi aussi. J'avais un peu déçu, honnêtement, de l'attaque d'Atlanta.
Il y avait beaucoup de hype sur l'attaque des Falcons cette année avec la venue de Kirk Cousins. On pensait que ça allait vraiment ouvrir le jeu pour Bijan. Bijan qui a pas mal joué, mais quand même. Puis au niveau de l'attaque aérienne, ça a été très difficile quand même aussi. Deux interceptions pour Kirk.
Ouais.
Au moins, le mal-aimé.
C'est là que tu t'en allais, hein?
Puis parlant de Kirk, là, lui, est-ce que c'est d'un tendon d'Achille qui revient?
Comme Aaron.
Est-ce que vous avez vu toutes comme les reels qui ont sorti cette semaine parlant du stance à Kirk? Est-ce que vous avez vu ça?
Ben, j'ai entendu aussi des insiders dire qu'il aurait de la misère à se déplacer, que ça paraît.
C'est que dans le fond, Crotz, quand il jouait avec toute sa carrière avec les Vikings puis avec les Redskins, dans le temps qu'ils sont maintenant rendus les Commanders, il jouait tout le temps offset avec le pied droit en avant, le pied gauche en arrière, puis on dirait qu'il a perdu de la mobilité parce qu'ils font toujours partir comme les pieds side to side. Je sais pas si c'est juste parce que son aussi il aime mieux ça de même, puis il veut pas donner d'indices sur le jeu, mais il y a du monde qui trouve qu'il a perdu beaucoup de mobilité. Il essaie de prendre comme le moins de pas qu'il peut, et honnêtement, ça m'a pas mis en confiance pour le reste de la saison des Falcons.
Non, c'est ça. Puis Drake London, début décevant, on sait qu'il sortait vraiment haut d'un draft, mais comme on disait, le mal-aimé qui a trouvé la zone payante, Kyle Pitts, 3 réceptions pour 28 verges, mais a trouvé la zone payante. Est-ce que c'est un bon trend pour celui-ci en fantasy? Ouais. Je ne suis pas certain avec ce que j'ai vu week 1.
C'est cette année ou jamais, selon moi, pour Kyle Pitts.
Ouais.
À sa quatrième année, cette saison.
Ouais. On parlait de Joe Mixon, justement. On parlait de Joe Mixon. 30 carries cette semaine dans la victoire des Texans. 29-27 à Indianapolis. Les Texans reprennent où ils ont laissé, pardon.
Ouais.
Quelle performance de leur attaque. Joe Mixon, comme je dis, 30 carries pour un running back.
Je sais pas si j'ai vu ça depuis qu'il est récent.
Ouais, mais c'est très très rare, fait grosse performance de lui. J'aimerais ça parler un peu des receveurs des Texans, par contre, dans ce match-là. On avait beaucoup de doutes sur qui était le gars. Puis, honnêtement, Nico Collins, ça a l'air d'être le gars qui va faire les big plays. Puis, Stephon Diggs, ça va être ton gars qui va se cook, peut-être TD. Puis, en fantasy, ça fait que je pense que les deux sont starlab à ce point-ci. Puis, Tank Dell reste un flex play, je pense.
Tank Dell, je pense quand même que.
Aussi, je pense quand même qu'il va être. Je pense que Nico Collins et Tank Dell vont peut-être s'alterner la game un peu à la Mark Andrews likely. Il y en a qui va scorer beaucoup une game. Il y en a qui va scorer un peu un autre une game.
Moi, j'ai entendu dire que Diggs était peut-être un candidat à sell high cette année parce qu'il y a encore des gens qui le voient comme le deuxième receveur de l'équipe. Du monde qui pense que Nico est vraiment la faute dans cette équipe-là. Là.
C'est ça. Mais dans Red Zone, on a vu qui CJ Stroud il cherche cette année. Puis,
absolument.
C'est Stephon Diggs. Petit tour rapide sur les Colts. Anthony Richardson était tellement hype fantasy wise cette saison.
What a throw, man! Avez-vous vu ça?
Ouais.
What the hell?
Un canon.
Il a fait la plus belle passe de la semaine, sans aucun doute. Taille avec le highest distance travel d'une passe dans la NFL, je pense.
Troisième, je pense, mais j'ai vu de l'histoire.
De la passe qui voyage le plus longtemps.
Par contre, il s'est à peine craqué, juste tourné un peu son poignet. Puis
c'est ça. Très impressionnant. Par contre, à noter qu'il était 9 en 29 par la passe. 9 en 19, excusez-moi. Mais
quand même 212 verges.
Quand même 212 verges de touchdown. Ce qui fait la différence avec lui au niveau de Von Fantasy, si vous l'avez sûrement repêché très haut cette année, c'est les verges par la course et les touchdowns par la course. Les opportunités, il va les avoir. Ça va être n'importe quoi cette année.
Est-ce que tu recommanderais Alec Pierce comme waiver ou pas vraiment?
Ces trois réceptions me font peur un petit peu dans ce match-là, ouais. Parce que je sais que ça a été le gros jeu justement. Mais Pittman m'a pas impressionné. Mais keep an eye on Adonai Mitchell.
Il y a aussi Josh Downs.
Josh Downs, oui.
Qui est blessé, il va revenir. Fait que...
C'est vrai. Donc, mais l'attaque des Colts, je pensais qu'on allait avoir un alpha en Pittman. Finalement, je pense qu'il... En tout cas, j'espère qu'il va être capable de me prove wrong dans les prochaines semaines.
Je me demande si c'est juste parce que c'est Richardson qui joue que Pittman n'aura pas autant la balle que l'an passé. C'était-tu avec Gardner Minshew l'an passé?
Si je me trompe pas,
c'est ça. Oui. C'est que l'an passé, l'offense des Colts est juste devenu une offense qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passes. Maintenant, avec Richardson, je pense pas qu'on va voir les grosses performances que Pittman a connues dans les deux dernières saisons.
C'est ça. T'ajoutes le facteur que ton QB est capable de la porter lui-même et qu'il peut courir tous les jeux comme running back. Ça a fait un peu mal à Jonathan Taylor aussi. Là, on a remarqué cette semaine, n'a pas été une grosse performance en fantasy. Cards Bills, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui voudrait un peu parler de ce match quand même plus serré qu'on pensait, je pense. Les Cards.
Marvin Harrison.
On n'avait pas le choix d'en parler. On n'avait pas le choix d'en glisser un mot. Hein.
Maserati Marv, qu'est-ce que tu fais, Big? Un catch, quatre verges.
Penses-tu que c'est sa faute, par contre? Ou c'est Gandler qui n'est pas capable de le voir?
Ouais, ça se peut aussi. Hein.
Soit il voit pas, soit il est pas assez grand pour le voir.
Mais non, ça, j'avais des high hopes, puis finalement, un peu déçu. Mais écoute, ça prend une semaine, je m'en fais pas tant, mais... Tu sais, Buffalo, honnêtement, défensivement, c'est plus vraiment ça. Je même pas regardé. Ah, je pense qu'ils ont lancé un corner des Packers, mais à part dessus, leur secondary, je suis vraiment pas tant regardé de nommer des gars-là.
Non, c'est pas un top de NFL.
Ouais, fait que ça, j'ai été un peu déçu de ça, mais finalement, Josh Allen sans Stephon Diggs looks quand même good.
Josh Allen prend ses couilles puis il va porter dedans de toute façon quand il a le goût. James Cook a eu 19 carries quand même, c'est quand même assez bon.
Mais la défense de l'Arizona est vraiment pas tant bonne. Je pense que c'est ça qui va leur faire mal parce que je pense qu'offensivement on a des weapons avec McBride puis Maserati.
Exact.
Mais ouais, là je m'attends un petit peu plus de touch de Marvin à partir de maintenant.
Pour ceux qui ont repêché Kyler, qui attendaient un peu plus loin dans votre draft pour repêcher Kyler, c'est quand même assez prometteur comme premier match, je dirais. Je sais pas si c'est tout, tu l'as repêché, je pense, Nico, dans notre ligue. Quand même satisfait, je pense, de sa performance.
Ouais, il a fait un genre de 15 points. Juste une passe de toucher, c'est son genre d'aller faire un toucher par la course aux deux games.
Exact.
Ouais.
Quand même bonne performance encourageante du côté de Kyler Murray pour ceux qui ont repêché un carré un petit peu plus, la stratégie un petit peu plus tard dans votre draft.
Pour revenir quelques secondes sur les Bills, j'ai entendu souvent là, cette semaine, qui vous pensez qui est le wideout 1, 2, 3 pour les Bills de Josh Allen cette année? Est-ce que c'est Shakir qui est numéro 1? Est-ce que c'est la recrue Coleman? J'aimerais vous entendre sur ça.
Moi, je vais...
Je pense que présentement, c'est Shakir, puis Coleman en deuxième, mais je pense qu'éventuellement, Coleman va devenir premier receveur.
Ça s'aligne pour ça aussi, je pense.
Un que j'aurais pensé qui aurait été beaucoup utilisé, c'est le Tyden Kincaid. Je pensais que ça allait être comme lui, sa target numéro 1, mais là, ça a l'air que...
Un catch.
Moi, j'avais beaucoup de hope sur Curtis Samuel.
Ouais, lui aussi.
Moi aussi.
Puis il a été deux réceptions pour 15 verges cette semaine. Un petit peu décevant. Mais tu sais, quand tu prends compte que James Cook a aussi trois réceptions pour 32, puis que c'est leur troisième receveur, lui aussi, en plus, c'est un joueur assez versatile, fait qu'il peut avoir une bonne share de target comme running back. Ça peut faire mal au receveur des Bills. Allons-y. Pour le prochain match, la semaine dernière, avec le number one overall pick in the NFL draft, et c'est Chicago Bears
qui vont gagner. Da Bears
avec son. Oh, aïe. Caleb Williams, qui réussit à aller chercher une win à sa premier match en carrière, mais c'est tout à cause de sa défense, on va se dire.
Sa défense est l'eau à mort, honnêtement. Là.
Puis l'attaque est quand même l'audace à mort, mais...
Ouais, c'est ça.
Par la passe, ça a été assez difficile pour les Bears dans ce match-là, quand même.
Ouais. Mais je pense qu'honnêtement, cette défense-là, là, en fantasy, garder un œil là-dessus. Honnêtement, 26 points fantasy, week one. Tu sais, vous me direz que c'était avec l'attaque de Tennessee, là, mais...
Ouais, j'ai l'impression aussi qu'ils peuvent surprendre. Il y a toujours des bonnes défenses historiquement. Ouais. Tennessee, ça a comme été un peu dans leur identité. Comme ouais, un peu Baltimore, mettons.
Non, mais la défense de Chicago m'a vraiment impressionné dans cette game-là. Puis Caleb, ben, c'est une game, là, mais...
14-29, voyons, pardon. Ouais, 14-29 pour 93-20.
Mais pas de pic.
Pas de pique.
Pas de passe,
pas de touchdown.
Pas de pique. Il s'est pas mis dans la merde.
C'est ça. Puis il a couru 5 fois pour 15 verges. Fait que c'est ça. Je pense que ce game-là. On va passer à une autre. Allons-y avec la suivante. As-tu une, Nick?
La première victoire de M. Harbaugh.
C'est vrai.
Contre les Raiders qui ont été très décevants, je trouve.
Très décevants.
Si j'avais des attentes. Ben, j'avais un peu d'âge. Je m'attendais à mieux, mettons.
Ouais, fait que victoire 22-10 des Chargers. Offensivement, je m'attendais à vraiment mieux des Raiders. Tu sais, Gardner Minshew pas fait mal. 25 en 33, 257 là, j'ai un touchdown, une interception. C'est bon. Mais on dirait que les Raiders n'ont pas été capables de closer. Puis eux autres aussi, je pense que ça va être difficile leur saison. Mmh. Défensivement.
Avez-vous l'impression que la hype d'Anthony Hooper, ça va s'estomper petit à petit? Moi, je pense que l'an passé, ils ont eu une belle fin de saison parce que justement, c'était un vent nouveau. Puis tu sais, ce qu'il y avait eu avec Josh McDaniel, c'était pas yard. Mais là, j'ai l'impression que l'an passé, ça marchait, mais je pense pas que ça peut tenir sur le long terme. J'ai l'impression que des gars comme Devante Adams, j'ai vraiment pas l'impression que ce gars-là va finir l'année à Vegas. Là.
Ouais, non, lui, il doit faire un tête tanné.
J'ai vu que Pierce avait pris une décision un peu douteuse. À un moment donné, je pense qu'il perdait par une possession, était en 4e essai déjà dans le territoire de l'adversaire. Et il restait tellement plus beaucoup de temps. Tout le monde disait qu'il n'y aura pas le choix de l'essayer, son 4e essai. Finalement, il a juste... je pense, faites un punt ou un botté.
Je sais pas si
vous avez suivi ça, mais finalement, ça a donné que les Raiders, je pense qu'ils ont pu toucher à la balle, finalement. Ouais. Là,
ouais. Dernier point que je veux amener, là, Joe Alt looked very good.
Joe Alt, first round pick des Chargers cette année, avec la grosse O-line et la mentalité à Harbaugh qui arrive. Là.
J'ai checké son film contre Max Crosby.
Il a rien fait, hein?
Il est for real.
Il est for real, j'étais sûr. Un gros bonhomme qui vient du fond de son chalet.
Very good.
Je sais que les deux running backs dans plein de ligues des Chargers étaient disponibles sur les waivers à Target. Là. Gus Edwards a un petit peu moins de volume à peine. Là. C'est juste que Dobbins a les groupes là. Mais...
Ils ont eu le même volume. Il y en a juste un qui a couru 100 verges de plus.
Puis ils sont mal... quand il y a des passes.
Ils ont eu le même touch.
Ouais.
Mettons Dobbins 10 pour 135. Edwards 11 pour 26.
C'est ça.
Est-ce que tu t'ennuies de ces joueurs
chez les Ravens?
Ben, Dobbins, on peut pas s'en ennuyer. Il jouait une game par année.
Ouais, c'est ça.
Mais Gus the Boss, je pense qu'on va. Il a pas dit son dernier mot. Puis ouais. Il va peut-être redevenir une TD machine.
Fait que ne lancez pas tous vos œufs dans le même panier pour aller chercher J.K. Dobbins dans des Deep League, peut-être. Parce très que ça pourrait vraiment être Gus Edwards qui a punch-in à la majorité du temps à Los Angeles. Tour rapide, Jaguars, Dolphins, je m'attendais peut-être plus à un blowout de ma part. Je sais pas si Tyreek avait un peu les mains engourdies après son arrestation devant le match. Quand même été une solide performance de sa part niveau fantasy, 7 réceptions, 130 verges, un touchdown, très payant encore une fois, ceux qui l'avaient majoritairement comme keeper, I guess. Donc grosse perfo, Jim Waddle qui a quitté momentanément le match, mais qui est revenu, 5 réceptions, 109 verges. Et je pense que dans l'attaque des Dolphins, on n'a pas le choix de mentionner Devon Achane, sur qui il y a beaucoup de doutes niveau fantasy cette saison. 10 carry, 24 verges, un touchdown par la course. Tu me diras, ok, average ou même pas startable at best. Devon Achane par la passe, 7 réceptions, 76 verges.
L'enfer, cette stats.
Ceux qui pensaient que Mostert avait le backfield encore locked in cette année, watch out, parce que Devon Achane is a weapon, puis je pense que...
Tout le temps les petits
screen routes, les dépanneurs qui virent en 30 verges finalement. Ceux qui ont drafté Devon Achane assez haut cette année, feel good. Côté des Jags...
J'aurais peut-être un petit sleeper, putain un sleeper. Moi j'ai bien aimé la performance de Tank Bigsby.
Autant de carry que Travis Etienne.
Ouais.
10 touches, hein?
12 touches pour 73
touches. 12 chaque. Certains diront que c'est à cause que Travis Etienne a fumble au goal line au début de la game. Fait que c'était comme un peu sa punition du match. Mais à un moment donné, il faut que tu gagnes des games de football. Là. Fait que...
Dans des ligues plus deep, là, peut-être pas dans...
Non, mais effectivement. Puis si jamais Travis Etienne, si vous avez des gros bench dans vos ligues, là, mettez Tank sur votre bench parce que la seconde que Etienne il go down, là, c'est son backfield. Puis ça va être assez impressionnant.
Un petit mot sur les playmakers de Miami pour cette semaine. en ce moment, Moster a été ruled out officiellement pour jeudi soir. HN est questionable, donc ceux qui sont amateurs de paris sportifs cette semaine avec Moster out, si on a la confirmation que HN joue, il faut absolument mettre HN anytime TD dans vos prédictions. Ça rentre n'importe quand, même si c'est les Bills, c'est sûr que ça rentre par la course ou par la passe. Et si HN ne joue pas, attention, Tyreek Hill aura la plus grosse partie du gâteau dans cette partie.
Ouh, bien dit, bien dit. Jeff Wilson sur le over, t'en penses quoi si les deux sont out sur le over rushing yards?
Ça dépend, ça va être quoi, mais si c'est autour de 50, je pense que je le prends, mais en fait, c'est quand même là, les Bills. Il me semble qu'ils ont une bonne game contre la course là, cette semaine.
C'est sûr qu'il en manque des gros morceaux de défense, mais...
Les Dolphins, j'ai un blanc. Il n'y a pas eu de duel la dernière game, mais de leur recrue...
Braxton Berrios.
Non, running back, là.
Les Dolphins?
Ouais, t'as peu.
Ah ouais, ils ont une recrue...
Running back, il y en a qui dit que ça a la tête un sleeper.
Ah oh, ouais?
C'est... T'as peu un instant?
Aucun carry.
Jalen Wright.
L'ancien running back de Tennessee. Ouais, okay. Comme un dog, là. C'est sûr que si t'es deux là, je joue pas jeudi soir. Je pense que je serais peut-être plus Jalen Wright over Jeff Smith. Jeff Wilson.
A quand même eu 5-6 courses en plein milieu de la game cette semaine.
Ah ouais.
Quand même, il y a quand même Chabal.
Lui et Monster ont comme le poste de numéro 2 qui sépare à deux.
Wilson, c'est le gars que je joue pour les Niners, right?
Ouais. Yep. Ouais. Monster et Wilson.
Puis ouais, c'est un Monster, tu
c'est
sais.
Mike, il les amenait avec lui. Voyons. Ouais, il s'appelle encore.
Mike McDaniel.
Exact.
Ah, ouais.
Ils amenaient avec lui de San Francisco.
Je savais pas ça.
Ok. Broncos Seahawks, on va vite là-dessus. J'espère que personne d'entre vous avait starté Bo Nix en fin de saison. Si vous avez starté Bo Nix, on va être touché par la course, vous a sauvé le cul un peu en fin de game. Parce que sinon, le jeu par la course de Denver était ouh. Javonte Williams, encore une fois cette année, qui nous déçoit. Courtland Sutton, downgrade est là. Il sera jamais capable d'avoir une passe la saison de Bo Nix. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand tu parles de gars qui read pas sa défense comme Daniel Jones, tu regardes Bo Nix, puis lui, il fait juste read sa défense, puis il lance pas le ballon.
Hey, mais Nick, je t'entends parler. Ils ont quand même été faire 20 points là, contre les Seahawks, contre la grosse défense des Hawks.
C'est vrai, mais.
C'est quand même une popée. Ouais, c'était une tight game. Là.
C'était du. En fin de la game, c'était surtout du.
Du garbage time. Bo Nix, c'était allé chercher un touchdown en garbage time.
Ah, ok.
Okay. Niveau Seahawks, peut-être un petit tour. Geno Smith, correct. Parfait.
La défense de Seattle.
Ouais, la défense de Seattle, ouh, par contre. Watch out. Je pense que Rémi, tu m'en avais parlé pas mal cette saison morte. Que la défense de Seattle allait les amener à des nouveaux niveaux. Là, mais...
Avec le nouveau coach aussi, un ancien Ravens.
Ancien defensive coordinator de Baltimore l'an passé.
Je dois dire que tant qu'à moi, honnêtement, une défensive dans la NFL à la week 1, on voit pas la vraie défensive. On voit. Qu'est-ce qui va être l'identité de la défensive pour toute la saison? On prend les plays qui marchent, après ça on fait un meilleur playbook pour la week 2. Je suis pas prêt à dire que ça va être une défense mid. Je pense quand même que les Seahawks, ils ont une défense peut-être top 10, top 12, si c'est pas plus. Puis elle est très jeune en passant, il me semble, leur défense. Je trippe vraiment sur Witherspoon.
Witherspoon,
Julian Love, Tariq Woolen, Leonard Mullins, Byron Murphy.
Woolen, il est vraiment capable de lockdown un wide out one.
Leur défense est lourde.
Il est super bon.
Ouais,
swag.
Puis au niveau de leur attaque, c'est Kenneth Walker joue comme ça toute la saison. Écoute, ils sont en business, je pense. Là. Les Broncos qui les regardent un peu dans le match et qui ont quand même encore des bons joueurs en défense. Pas Patrick Surtain, mais à part de ça,
moi, je pense
ça va être difficile comme saison.
Je pense que si Seattle font pas les playoffs cette année, dans le fond, ça va être à cause du quarterback play. L'offense est loadée, la defense est loadée. Si Geno Smith fournit pas la marchandise, il y a quand même trois super bons gars pour mettre le ballon dans les mains. Là.
Ouais.
Je m'attends vraiment à ce qu'ils fassent les playoffs cette année en wildcard derrière les Niners. Ça, tout va dépendre de Geno Smith.
Exact. Puis parlant des receveurs, peut-être un petit tour rapide. Là. Ceux qui ont plusieurs pensé que Jackson Smith et Jigba allaient prendre le rôle de numéro 2 fermement cette saison. Lockett qui a été le receveur le plus target et avec le plus de verges cette semaine. Donc pour ceux qui Lockett traîne encore sur les waivers, peut-être déclutcher là-dessus.
Ça fait 3 ans là, qu'on pense qu'il est fini. Puis finalement
c'est toujours un bon flex
play. Il y a des super bons targets. Ça fait 3 ans que c'est le même.
Toujours un bon flex play en PPR. Les pauvres Browns. Je dis les pauvres Browns parce que leur corps arrière, ça n'a encore une fois aucun bon sens. Ça, c'est... Je sais pas si qui a regardé la game. Vous avez sûrement regardé la game. America's Game of the Week. Dallas Cowboys qui s'en va à Cleveland. Et qui...
Oui, ben, c'est sûr que quand Il y a quelque chose qui est sorti cette semaine, qui est encore accusé d'un viol.
Avec le pack contre
il devait le savoir, ça allait sortir. J'imagine, je peux pas se croire qu'il était 100% concentré sur ta game.
Effectivement.
Quand t'as ça dans la tête.
Avez-vous parié sur cette game-là cette semaine?
On avait.
Parce que
nous, on avait Dallas.
Ben, c'est ça, perso, j'avais mis Dallas dans un bet. Les Browns étaient favoris pour la game.
Ouais.
C'était Browns à 1.8, Dallas à genre 2.05. Dès que j'ai vu ça, je me suis maudit. Dallas en saison régulière contre Watson. Ouais. Impossible que les Browns aillent chercher ce game-là. Là. C'est impossible. Je peux pas croire qu'il y ait un cadeau de même sur le lap de bet.
Puis en plus, le 2 Doug ne se faire payer. Là.
En plus.
Ouais, c'est ça. Dès qu'on attend qu'ils vont lancer son contrat juste avant le match, comme ça regarde.
C'est CD la semaine avant. Là. Fait que...
Exact. Grosse perte du côté des Browns. David Njoku.
Ouais, rester
sur la touche, préférablement. Parlant de tight end aussi, Jake Ferguson qui est tombé au combat chez les Cowboys. Donc, deux joueurs qui étaient fantasy relevant à la position de tight end. Monitors dans vos équipes. Amari Cooper, Jerry Jeudy, invisible. Dans le backfield des Browns, Jerome Ford, pas grand-chose. Puis Dallas, ça continue.
Yo, Zeke était quand même assez efficient. J'ai vu deux drives de cette game-là. Zeke faisait des first downs, Zeke faisait des spin moves, puis il shakait des gars, puis il gagnait des yards after catch. C'est sûr que ça sera jamais Zeke du passé, mais honnêtement, je pense qu'il peut donner des bons services à Dallas cette année, puis surtout goal line, je pense qu'il va la puncher.
Exact. L'an passé, il était fringe fantasy relevant parce qu'il jouait avec les Pats. Là, cette année, il revient avec les Cowboys, une attaque dominante, une attaque pour qui il doit se sentir très bien là, quand même.
Absolument.
Il doit feel good de jouer là-bas, lui, donc ouais. Quand les running backs, la chair à canon va commencer à tomber là, dans quelques semaines au niveau du buzz de running back dans vos fantasy, Ezekiel Elliott, peut-être un gars à stash ou peut-être un gars à look sur les waivers parce qu'effectivement son work at the goal line risque d'être assez gros. CD et CD. Puis sinon, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là.
On va enchaîner avec le boulanger qui a complètement cooked les Commanders. 24 en 30, 289 verges, 4 touchés. Passer rating de 146. On voit pas ça souvent.
La fierté canadienne Benjamin Saint-Just s'est faite complètement cook par Mike Evans. Corrigez-moi si j'ai tort, Mike Evans, je pense que c'est un receveur qui est rendu à 6 saisons de plus de 1000 verges ou de quoi de même,
back-to-back.
C'est le modèle de consistency, puis même s'il est vieillissant, il continue à cook les cornerback one de tous les clubs. Benjamin Saint-Just a fait une super bonne couverture, mais Evans a juste... pris ses longs bras de squid pis il est allé la chercher là. Genre la passe à Mayfield était absolument parfaite, pauvre gars.
L'attaque des Bucks look real good, la défense des Commanders look real ass.
La ligne offensive aussi honnêtement,
n'importe quoi,
la ligne offensive.
Jalen Daniels might be the next Lamar par contre, mais
it might,
parce que je sais que, en tout cas moi je l'ai drafté dans une de mes ligues, puis j'étais bien content d'avoir 16 carries pour 88 verges, 2 TD, mais à quel point il va rester en santé s'il joue de même à toutes les semaines.
C'est pas vraiment anodin, là. Aussi, c'est Cliff Kingsbury qui était le coach en Arizona, là. Puis qui était aussi là aussi à Money Manzo à Texas A&M. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y a pas mal tout le temps des QB qui sont capables de courir avec le ballon. Fait que,
s'il est capable de bien l'utiliser, ça peut être le seul bright spot niveau fantasy dans leur équipe cette année. Parce que, honnêtement, au niveau de la passe, là, assez décevant du côté de Terry McLaurin. Je pense qu'il se faisait quand même repêcher haut cette année. Il va avoir de la misère à voir le ballon, ce gars-là, cette année. Puis, sinon, le backfield est à Brian Robinson. Ceux qui ont stash avec eux, bonne chance cette année. S'il cache pas des passes en garbage time, il va être rien. Mais bon.
Est-ce que les Commanders sont en train de gâcher la carrière à McLaurin? C'est sûr que là, on est le match 1. Là. Peut-être que je vais loin pour un match 1. McLaurin, est-ce qu'il y aurait du potentiel avec une équipe gagnante? Parce qu'en ce moment, c'est vraiment décevant comme carrière. Puis contrairement à London, on voit que McLaurin, il a vraiment beaucoup, beaucoup de talent, il a de la vitesse, il cook tout le temps ses joueurs, mais le ballon ne se rend jamais à lui.
On l'a vu cook dans le passé. On l'a vu cook plus souvent que London là, pour la comparaison.
Honnêtement, il n'a jamais vraiment eu de bon QB. Là.
Jamais.
Exact.
Son vrai premier QB qui va peut-être donner une chance, c'est justement Jalen Daniel. Mais moi, je trouve que ce gars-là, effectivement, c'est un gars que, d'après moi, t'envoies dans une équipe gagnante. Puis il serait peut-être dans une meilleure chose là, parce que c'est vrai qu'avec temps, Washington, je pense c'est quoi, c'est year 7.
C'est sa septième année.
Je pense que oui.
Fait que là, lui, là, il est presque done. Ouais.
C'est presque fini. Peut-être qu'il reste un an de contrat, puis il faut qu'il le signe.
Il me semble qu'il a été repêché dans le même draft que Pat Mahomes. Peut-être l'année d'après. Là.
Mon Dieu. Il va vouloir gagner bientôt, lui. Ouais. C'est sûr qu'il ne va pas signer là. C'est sûr, c'est clair et net.
Je connais pas les modalités de son contrat ou whatever, mais à un moment donné, il va avoir le goût de gagner, c'est sûr. Enchaînant avec les deux games prime time, Sunday Night Football, le premier de la saison. Esprit qui fait du bien celui-là en passant. Je tiens à dire le mot. Rams Lions. Matt Stafford qui s'en va jouer à Détroit. Détroit qui gagne 20-26. Comment on file, mettons, par rapport à les expectations des Lions cette année? Est-ce qu'on est confiant? Est-ce que ils ont montré ce qu'on pensait qu'ils allaient nous montrer? Ou bien, est-ce qu'on est. Les Rams, peut-être, moi, m'ont surpris beaucoup dans la défaite. Là. Je pense que leur attaque.
Ouais, effectivement. T'sais, une équipe coachée par Sean McVay, je pense que ça va jamais vraiment décevoir. L'autre côté, Détroit, ben écoute, c'est une équipe qui est rodée l'année passée, ils ont une grosse run. Ils auraient dû se rendre au Super Bowl, let's be real. Fait que je pense qu'encore cette année, ça va être Super Bowl or bust pour eux, mais il y a quand même des gros joueurs dans l'NFC. Là. L'an passé, autant que c'était assez open, mais là, cette année, San Fran est encore là. Philadelphie, autant que Jésaïe sont là. Tu peux même envoyer Green Bay une fois que là, va être revenu en santé. Fait que il y a des gros joueurs dans l'NFC. Ça sera pas un easy pad comme l'an passé. Là.
Exact. Puis leur attaque niveau fantasy, ça va être encore une belle saison gossante, je pense, pour la gestion des deux running backs. Hein?
Ben, c'est que, Nick, personnellement, je pense que c'est l'équipe qui a deux running backs, dans le fond, qui sont égales, un A et un B, qu'on dit au lieu d'un running back 1 et un running back B. Excusez-moi, un 1 et un 2. Là, on a un 1A, on a un 1B. Honnêtement, là, je suis prêt à dire que c'est le meilleur duo de running back de la ligue, je pense. C'est incroyable. Les deux gars sont dans leur prime. Gibbs s'est encore amélioré. Gibbs, il fait miss des contacts. Puis Montgomery, il a tellement de la puissance puis de la vision de jeu. Les deux running backs sont dans leur prime. Puis quand les deux sont en forme, en s'échangeant des drives de même, vous l'avez vu ce que ça a fait en prolongation, Montgomery, je pense qu'il a fait 60 verges par la course sur la même drive. C'était l'enfer. C'était first down après first down après first down. Il truckait tous les gars. Vraiment, vraiment une grosse attaque par la course. Donc quand que Amon-Ra St. Brown puis les autres wide out puis la connexion avec Goff a se fait mal, le jeu par la course, il va tout le temps être là pour eux autres cette année, tant qu'ils sont en santé, là, ces deux gars-là.
Puis là, t'as Jameson Williams qu'on a vu clairement cette année là, qui va être capable de stretch le field.
Tellement rapide.
Lui, il va être capable de stretch le field tellement. Moins bonne performance week 1 pour Amon-Ra St. Brown. Premièrement, votre first pick pour ben des gens ou peut-être ceux qui ont des league keepers, là. Amon-Ra St. Brown, lancez pas la serviette sur lui. Je pense que la bonne performance de Jameson Williams va juste plus lui ouvrir le terrain puis il va encore plus cook plus tard. C'est pas grave. Mais sinon, Laporta, un peu décevant de Laporta. C'est sûr que c'est un TD relevant un peu, là. Le 4 pour 45. C'est sûr qu'avec un TD, ça va être une bonne perfo. Sans TD, c'est un peu moins. Côté des Rams, Cooper Kupp is back, boys. Cooper Kupp is fucking back. 14 réceptions pour 110 verges. Le PPR machine. En plus, avec un toddy avec ça.
Venez pas me dire que c'est parce que Nakua s'est blessé. Kupp était, même quand Nakua était là, Kupp avait le plus de targets. Kupp était le receveur qui était le plus souvent ouvert là, sur le terrain.
Je pense que Kupp, c'est un early league winner, ce gars-là.
Ouais, absolument.
Au spot qui se fait, ou à son ADP qui se faisait drafter cette année en fantasy.
En 5e, 6e round, 7e.
Non,
4
genre.
4, ouais. Dans la deuxième vague de receveurs. Avec les receveurs B+, mettons, là, qui se faisaient drafter.
Alors que Puka était ronde 2, man. Irrespectueux envers le gagnant de la triple couronne.
C'est vrai, je pense du même avis. Dernier prime time, avant qu'on fasse un petit tour d'horizon sur ce qui nous attend cette semaine, on va prendre. Aaron Rodgers, un retour qu'on attendait, entre guillemets, parce que c'est son deuxième en 2 ans, qui revient contre les 49ers. C'est sûr qu'il pogne une excellente défense en partant. Une affaire que je retiens des Jets, je pense que... vous allez me dire que moi, j'aime vraiment beaucoup Alan Lazard dans cette attaque-là, cette année. Je sais pas pourquoi vous allez me faire démentir, mais si encore sur les waivers sur votre ligue, watch out for Alan Lazard. Moi, j'irai la snag tout de suite.
Penses-tu qu'il gagne le poste de wideout 2 avant Mike Williams?
Je pense que c'est déjà fait.
Tu penses que c'est fait?
Ouais.
Williams était complètement invisible.
C'est l'enfer.
Parce qu'il a joué 3 snaps en première demi.
C'est ridicule. Est-ce que vous pensez que c'est une blessure?
Mais non, il revient d'une grosse blessure. Okay. Mais Alan Lazard, quand il jouait à Green Bay, vous vous rappelez? Oui.
C'est ça, c'est qu'ils ont de la chimie par
le gars à Green Bay. C'est le gars Aaron. Puis on sait qu'Aaron, dans sa carrière, a toujours eu son gars. T'sais. Ça a été Jordy Nelson pendant un bout, ça a été Devante après. Là, après ça, Lazard a dit.
Pendant moins, un an ou deux.
Moins bonne performance en plus à l'appui. Là, mais quand t'es le guy du gars, j'ai vraiment l'impression. C'est 9 targets surtout qui m'a fait. 9 targets contre San Francisco, ça me donne le goût de croire que. Je pense qu'avec son AD, ben, il n'est pas drafté ce gars-là, même, en fantasy. Je pense vraiment qu'il pourrait surprendre. C'est sûr qu'il y a un touchdown dans Garbage Time, mais bon. À regarder, Breece Hall était bon aussi. Puis Garrett Wilson.
C'est la cible dans toutes les troisièmes essais.
Ouais, Garrett Wilson va avoir du ballon cette année. Là. Ouh là là.
Ça va être 10 targets par game. Je pense que c'est son.
Son minimum. C'est son
floor. Je pense que c'est son floor.
C'est son floor.
Mais là, je pense qu'il a juste eu 6 catches, 610 à peu près.
Quelques erreurs aussi, je pense. Puis. Comme j'ai dit au début, tu joues contre la défense de Niners aussi, là, c'est pas rien.
Le chemistry était pas encore totalement build aussi, vu que l'an passé Rodgers n'a pas joué pendant tout.
Exact, exact.
Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de l'affaire de Mason, qui a dit qu'il savait depuis jeudi qu'elle allait être starter? Là.
The league will look into that. Je pense que les 49ers, ils ont essayé de se défendre en disant non, on lui a dit sois prêt, tu vas avoir un plus gros rôle parce que CMC aura pas sa full workload. Mais en tout cas, juste quand tu écoutes toutes les entrevues de la fin de game, là, moi je pense que la NFL va look into that peut-être. Parce qu'on sait que la NFL a des règles très strictes, qu'il faut pas qu'il y ait des. Comme qu'on cache comme des blessures quand on sait déjà qu'un joueur joue pas. Pour les paris, puis tout ça, c'est vraiment très très important pour l'intégrité du sport.
Moi je trouve ça vraiment pas fort. Là,
Non, moi non plus. Mais il y a des règles par rapport à ça au sein de la NFL, puis d'après moi, ils vont être sanctionnés.
Ils vont payer l'amende.
Il faut toujours que le statut du gars soit déterminé au jour le jour, il me semble bien.
Je pense que c'est sorti une heure avant, puis il était même pas questionable. Ah oui, genre, je pense qu'il était questionable, mais tous les reports disaient « There is nothing that says that McCaffrey shouldn't play ». Il y avait aucun indice là, qui...
Exact. Ouais. Fait que, mais gros, restant sur Jordan Mason, énorme performance. Si vous avez McCaffrey, vous avez réussi à le snag, 28 carries, 147 verges. Au sol. Je sais que toi, Rémi, ça t'a gagné ta semaine. Cette semaine, t'as été capable de le snag parce que t'as CMC en RB1. Fait que pour l'avenir, qu'est-ce qu'on pense de Jordan Mason? Est-ce qu'il devient irrelevant dès que CMC revient?
Selon moi, en ce moment, là, CMC risque de manquer plus qu'une game. Les reports disent que ça se peut qu'il en manque deux, ça se peut qu'il en manque trois, jusqu'à quatre. Ils disent que cette nouvelle blessure-là, c'est-tu à son mollet, c'est ça que à son. C'est ça, je pense qu'il y a une tendinite. Ils disent que c'est long de revenir de ça. Puis même quand t'es revenu, t'es souvent pas full workload. Selon moi, en ce moment, avec le type de début de saison que McCaffrey a, Mason reste sur ton bench toute l'année, même quand McCaffrey est là. Personnellement, je pense que Mason va avoir un spot sur mon bench toute l'année. Dès que McCaffrey se blesse, j'ai pas le choix d'avoir le premier porteur des Niners. Qui est derrière une des meilleures lignes offensives. Là. Il va avoir des super bonnes games, même si c'est pas McCaffrey.
La semaine prochaine, tu le startes-tu sans aucun doute contre les Vikings?
Dès que McCaffrey joue pas, je le starte n'importe quand, Mason. Ouais,
exactement.
Moi aussi, je pense que ça doit être un automatique, absolument.
Exactement. Alright, fait qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé la semaine dernière. First week dans la NFL. Je sais pas si t'avais de quoi rajouter.
Non, on peut passer à la prochaine semaine.
À la prochaine semaine. Est-ce que quelqu'un ici, Rémi, est-ce que tu aurais des locks pour nous cette semaine?
Question. Enfin, Rémi, j'aimerais ça que tu nous donnes. On va toutes les faire, là. 2-3 locks, mettons.
Okay.
Puis un underdog que tu penses qui pourrait surprendre.
Ouais.
De quoi du genre, là. Parle-nous un peu de ça.
On va y aller.
Tu peux avoir des props players aussi si.
Ok, je vais y aller avec des money line, Nick. Je vais te laisser plus les props pour les players. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, la chronique à Rémi. Zoom, zoom, zoom. Donc, pour ma chronique cette semaine, je dois vous avouer que il y a des match-ups qui m'intéressent pas tant cette semaine, mais dans ceux qui sont venus à mon attention, les Commanders contre les Giants. Les Commanders en ce moment sont favoris à 1.8. Puis les gars, vous aimeriez pas qu'est-ce que je vais dire, mais en ce moment, je pense que Jaden a plus de chances d'aller la chercher que DJ. Honnêtement, en ce moment, mais je sais que vous avez du succès historiquement contre les Commanders.
Récemment.
Donc oui, c'est pour ça que ça ne sera pas mon pick de la semaine. Les gars, honnêtement, je trouve que les cotes sont fair cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, des Cards contre les Rams Les Cards sont favoris à 1.83 en ce moment. Moi, je pense que mon pick, c'est les Rams, cote de 2. Je mets ça dans n'importe quelle bête.
J'allais dire que
les Rams contre les Cards.
Avec ce qu'on a vu de la défense des Cards la semaine dernière, j'ai vraiment l'impression que les Rams peuvent les cook. Mais je pense que ça va être une game à high scoring. Peut-être voir le over est à combien sur le...
Le over est à 49.
Ok, quand même. Mm. Sinon, est-ce que tu avais d'autres matchs qui t'intéressaient? J'en ai quelques-uns qui me tombent dans l'œil de mon côté. Est-ce que tu pourrais me dire la cote des Jags contre les Browns, s'il
te plaît? Oui, absolument. En ce moment, les Jags sont à 1.6.
Favoris contre les Browns?
Contre les Browns à 2.4. Je suis complètement d'accord avec toi.
Ok.
Puis je trouve que la cote des Steelers est très haute contre les Broncos. Donc les Steelers sont favoris à 1.71. Les Broncos avec Bo Nix là, à cote de 2.20, là, je serais prêt à mettre un beau petit parlay Steelers puis Rams. 2 pour les Rams puis 1.71 pour les Steelers. Selon moi, je pense qu'ils ont mal calculé leur cote sur ça. Là. Je veux dire, c'est une attrape nigo.
Si on fait un petit tour, mon crush, toi, qu'est-ce que tu vois de beau dans ton horizon?
Ouais, honnêtement, là, j'ai un spread qui me parle. Je trouve que Tampa Bay, là, 7.5, là. Tu sais, eux autres se sont fait sortir par Détroit l'an passé.
Ouais.
J'ai l'impression que les gars vont sortir avec le couteau entre les dents, puis Mayfield, il a du swag depuis le début de l'année, puis
fin
de l'année passée aussi, je trouvais qu'il y avait du swag, mais je trouve que 7.5, là, je prendrais Tampa plus 7.5. Puis sinon, autant que New England, j'ai trouvé qu'ils ont sorti fort contre les Bengals, mais on sait qu'historiquement, les Bengals, week 1, c'est jamais bien fort. Fait que si à l'autre, moins 3.5, moi, c'est quelque chose qui me parle aussi. Hein.
Clairement, je pense qu'ils ont mis ça aux Patriots à cause de leur game contre les Bengals. Mais je pense pas que les Seahawks vont faire des cadeaux de même aux Patriots cette semaine-ci.
C'est sûr que Diggy va se faire chaloux par Christian Gonzalez, mais après ça, les Seahawks sont deep. Toi, Nico, tu regardes ça?
Moi, j'ai un peu changé ma façon de bet, là. Je suis plus maintenant un gars de favori, genre... Mettons, là, les Chargers à 1.40 contre les Panthers. Je trouve que c'est beaucoup. Je pense que c'est impossible que
Harbaugh
aille perdre cette game-là là-bas.
Hey, t'as raison, les Panthers gagneront jamais
si, ça. 1.40, c'est quand même beaucoup.
C'est colon,
effectivement.
Puis, même affaire, comme vous disiez, les Seahawks à 1.52. C'est sûr qu'ils sont sur la route. Ça m'agace un peu, mais... Je pense que je vois pas comment les Patriots peuvent battre les Seahawks.
Si je vais avec ta stratégie de bet, tu penses quoi des Chiefs à 1.41 contre les Bengals? Est-ce que c'est un look aussi?
Mais c'est parce que ça, je te dirais oui, mais les Bengals, on dirait que c'est...
Ben oui, puis en plus, je pense que la game est à...
Ouais, c'est Arrowhead.
Est à Arrowhead.
Arrowhead
à,
ou Burrowhead?
Burrowhead
ou Arrowhead?
Esprit, c'est bon ça. Bro,
ouais. Mais sinon, demain, on a un bon Thursday night.
Ouais, mais c'est ça, je voulais parler justement parce que là, je suis pas encore exactement certain quand le podcast va se rendre à vos oreilles, mais demain.
Pour le monde va l'avoir, ils vont écouter le podcast
religieusement.
Après le Thursday night ou juste avant.
Exactement. Donc, demain soir, on a Bills Dolphins, des duels qui sont historiquement quand même assez enlevants. Peut-être une petite prédiction de chacun de vous qui va sortir de ce game-là gagnant.
Bills.
Si Mostert et A-Chain ne jouent pas, Bills à 2.15, on le watch.
Moi, je l'ai déjà placé.
Ah ouais?
Au cas où, justement, les deux sont ruled out.
Okay.
Tu penses que ça, ces deux-là, c'est Bills all the way?
Ben moi, honnêtement, ce que j'ai trouvé de la dernière game des Bills, c'est Josh Allen, j'en reviens pas. On dirait que c'est Superman. Là.
Non, mais lui, ouais,
c'est ça. C'était vraiment bizarre.
Il rentre dans le tas, là.
C'est Mr. M, là.
Avec Sassia Lee, quand il s'est croisé les bras devant le... Ouais. Si vous l'avez vu, là.
Ouais.
Mr. Aura.
Ouais.
Je pense qu'avec l'offense que les Bills y ont cette année, là, s'ils se rendent en playoff, Josh Allen va être un MVP candidate.
Ben, c'est sûr.
Avec son offense là, de merde. Là.
C'est sûr. Et ça, c'est sûr et certain.
Buffalo est 10-1 contre Tua. Je prends Buffalo.
Puis en plus, si on enlève toute la running game.
Ouais, là, je sais, mais.
Non, ça changera pas
grand-chose. Ouais, pour moi, je prends quand même Buffalo.
En début de saison de même.
Puis quand ils vont jouer, quand ils vont se rendre à Buffalo en décembre, je vais encore prendre Buffalo.
C'est quoi le over sur cette match-là pour le fun? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le tertiaire des Bills va avoir de la misère contre l'attaque des Dolphins par la passe. Mais comme vous dites, si les deux running backs de Doug sont down pour Miami, par contre, là, ça restera un peu les opportunités pour eux de faire des longs jeux ou juste de focusser beaucoup sur la passe. Je pense que je vais aller pour les Bills aussi qui s'en vont voler une à Miami demain soir. Je sais pas si vous aviez d'autres peut-être
Je voulais dire qu'on garde les bons match-ups de cette semaine, mais on n'est pas gâtés comme la semaine passée de ce que je vois
au niveau fantasy ou plus
Mais je veux dire des bonnes games
Bills
Dolphins demain
moi j'aime bien Saints Cowboys. Honnêtement, je pense que les Saints ont de quoi prouver après une victoire dominante la semaine passée
contre les Panthers,
puis là ils affrontent les Cowboys à Dallas. Si la Nouvelle-Orléans donne une game qui a de l'air d'une bonne game quand même, peut-être qu'ils sont le real deal, mais là je pense qu'ils ont vraiment tout approuvé cette semaine, fait que je pense que cette game-là ça va être bon. Puis en plus c'est à 13h à Dallas. Colts Packers sinon qui vont s'affronter à Green Bay, le opener, la première game à Lambeau, où il est possible de fumer des cigarettes maintenant. Plate pour Urban Estime, il a slacké.
moi honnêtement j'aime bien Houston contre Chicago là.
Sunday night la semaine prochaine. Ouais,
je sais pas. Je pense que ça va être le vrai premier défi de Chicago. Montrer vraiment si l'off-season a été payant pour vrai. Mais...
Si leur défense est. Ouais, leur division winner, division. Ouais.
C'est ça. Leur défense va se faire tester pour vrai. Puis, tu sais, honnêtement, Houston a une bonne défense aussi. Là, fait que Caleb va se faire tester parce que, honnêtement, c'est pas tant fait testé la semaine passée, puis les matchs préparatoires qu'il a joué, il a jamais joué contre des starters, fait que je pense que son vrai défi est là contre Will Anderson et sa bande.
Bien ouais. Puis si on finit lundi avec le match-up la semaine prochaine, c'est The Battle of the Birds à Philadelphie, Falcons Eagles. Es-tu quelqu'un qui bête vraiment sur les Falcons dans ces games-là?
Pas aujourd'hui. Pas cette semaine.
Je penserais pas.
Je vais passer mon tour.
Je penserais pas. Hein. Saquon is about to cook them up.
On peut par contre parier sur Anytime Touchdown de Saquon Barkley, selon moi.
C'est quoi la cote pour le fun, sur moi dans ça? Parce que.
Ah, ils sont pas encore sortis.
Qu'ils sont pas sortis.
Pas encore sortis.
Mais si on commence à parler de joueurs individuels, j'en aurai un dernier pour vous.
Oui,
Puka Nakua est out en ce moment. Le over-under à Cooper Kupp est à 85 verges. C'est le seul receveur qui va. Pas le seul, là, mais il va avoir au moins 10 à 12 targets contre les Cardinals.
C'est quoi le over de tout à tout?
Il en a eu 20 dans l'année.
Ben c'est ça. Mais s'il y a eu 20 targets, on s'entend que son 85 verges, il va le buster en 3 quarts.
C'est sûr et certain.
Moi, je pense qu'à 1.9, ce over-là de Cooper Kupp, c'est absolument mérité.
Yes, exactement. Peut-être mettre dans un petit money line avec les Rams, là, ça pourrait être payant à maudit, ça. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour ce qui s'en vient. Je sais pas si t'avais autre chose à ajouter.
Non, on pourrait aller chercher un petit mot de la fin de nos deux invités.
Ouais, fait que en tout cas, bien content tout le monde d'être de retour. Je vais laisser peut-être Rémi nous laisser sur un mot de la fin concernant ce que tu as envie de nous parler. Peut-être des cheese, peut-être de ton retour sur le podcast, peut-être de ce qui s'en vient, peu importe.
Moi, les gars, ce podcast-là, il me donne envie de sortir de ma retraite en tant que joueur de football. Je suis en train de stalker la page du Bataillon de Québec.
Tu prépares pour les try-outs.
D'ailleurs, l'an passé, c'était une des conséquences possibles de notre fantasy en début d'année quand on votait. Pourquoi c'est pas revenu pour cette année?
Je sais pas, hein,
aller
pas
à une pratique du Bataillon de Québec.
Ou try-outs.
Pour ceux qui nous ont jamais vus, on est tous des gars qui ont passé leur prime de shape, sont un peu out of shape.
Je suis direct sur le frein.
Ben, c'est ça. Fait qu'en ce moment, si on allait dans les bataillons, ça serait pas beau à voir. Donc, une conséquence fantasy, ça serait très drôle à observer. Pour ceux qui savent pas, le Bataillon de Québec est une équipe senior, je pense, semi-pro là, de football à Québec.
Ouais, exactement. Ça. Donc, on pourrait faire les try-outs sans problème. Il faudrait juste qu'on se trouve un équipement et on irait se faire geler ben raide. Ouais. Tu vois, mon crud, c'est ce que t'es content que le Tailgate revienne, content de faire partie du roster de collaborateurs cette saison.
Bien content de pouvoir, que je vais pouvoir vous réécouter. Puis, merci de m'avoir invité. Puis, let's go with Blue.
Let's go.
Ça va être difficile.
Let's go, Blue.
Merci beaucoup, les boys, pour l'invitation aussi. C'était super le fun. Ça m'a fait plaisir de partager mes connaissances avec vous autres, les maniaque de sport.
T'es un méchant.
Alors, je vais te laisser terminer, mais avant ça, j'aimerais ça envoyer nos auditeurs aller nous suivre sur Instagram. C'est là que vous allez tout retrouver l'information sur nous.
Exact.
Ça nous encouragerait beaucoup.
Puis n'hésitez pas à répondre si jamais ce qu'on a dit dans le podcast, vous trouvez que c'est de la grosse bullshit ou whatever. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions, whatever, questions fantasy, Peu importe des constats que vous avez, n'hésitez pas, ça serait tout à le fun de vous parler de foot avec vous autres. Comme vous voyez, on est bien démordus. Puis très heureux d'être retour cette saison pour une belle saison de la NFL. Et donc, je souhaite une bonne journée à tout le monde et merci d'être encore à l'antenne du Tailgate Podcast.